Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, l'espoir au Soudan après la signature d'un accord entre le pouvoir et la contestation. Nouvelle manifestation en Algérie malgré la proposition de sortie de crise du président par intérim. En Côte d'Ivoire, l'opposition rejette la nouvelle commission électorale. La Tunisie interdit le niqab dans les institutions publiques. Sans oublier bien sûr le journal de la CAN en page sport. Mais d'abord, le journal. Ce soir dans l'actualité africaine, au Soudan, le conseil militaire au pouvoir et les meneurs du mouvement de protestation ont convenu de mettre en place une présidence alternée pour diriger la transition pendant 3 ans. Cet accord a été accueilli avec espoir dans les rues de Khartoum. Eric Manirakiza.
Des centaines de personnes sont descendues dans les rues, laissant éclater leur joie et clamant que le sang des victimes de la répression des manifestations n'a pas coulé pour rien. Les militaires et les contestataires se sont mis d'accord sur l'instauration d'un conseil souverain. Selon un leader de la contestation, Ahmed Rabi, cette instance sera composée de 5 militaires et de 6 civils. Les militaires vont d'abord présider la transition pendant 21 mois, puis les civils prendront la relève durant 18 mois pour une durée totale de 3 ans et 3 mois. C'était le principal point de discorde qui avait entraîné la suspension des discussions en mai. D'après l'Association des professionnels soudanais, acteur majeur de la contestation, l'accord final doit être prêt pour signature dès lundi. Nous avons traversé une phase difficile. Nous avons souvent eu le sentiment que notre révolution avait été détournée. Mais aujourd'hui, nous pouvons célébrer notre victoire. C'est féliciter Mohamed Hussein.
En République démocratique du Congo, la barre des 1600 décès dus à l'épidémie d'Ebola a été franchie hier jeudi. Une nouvelle victime a été confirmée à Ariwara, dans l'Ituri. C'est une nouvelle zone touchée par Ebola, frontalière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. En Centrafrique, plus de 160 combattants d'un groupe armé signataire de l'accord de paix ont déposé leurs armes dans le village de Beloko, situé dans l'ouest du pays, non loin de la frontière avec le Cameroun. Cette opération de désarmement est la seconde menée depuis le lancement en RCA du projet DDR, désarmement, démobilisation et réintégration, en décembre 2018. Deuxième journée consécutive de manifestations contre la réélection du président Mutharika au Malawi. Des milliers de manifestants ont défilé calmement dans la capitale Lilongwe, où de nombreux magasins sont restés fermés, et dans la capitale économique Blantyre. Une ONG de défense des droits humains a été dissoute par les autorités en Guinée équatoriale. Le ministre de la fonction publique, Faustino Ndong Ezono Eyang, a justifié sa décision en affirmant que le Centre des études et initiatives pour le développement avait eu des agissements politiques ces dernières années. Le CEID avait déjà été suspendu en mars 2016 pour violation de l'ordre public à la suite de l'organisation d'un forum des jeunes en janvier 2016. En Algérie, l'important dispositif policier déployé dans les rues d'Alger n'a pas empêché des milliers d'Algériens de manifester ce vendredi. Ceci alors que le pays célèbre le 57e anniversaire de son indépendance. Nous faisons le point avec Abdourahman Dia.
Au cri de « Partez, libérez l'Algérie », les manifestants dans la capitale ont forcé un cordon de policiers. Des témoins ont rapporté une dizaine d'arrestations. Chantant des hymnes à la gloire des martyrs de la guerre d'indépendance et agitant le drapeau national, les manifestants ont répondu à l'appel lancé par diverses personnalités. Depuis la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika, sous la pression de la rue et de l'armée, le mouvement de contestation refuse que ce qu'il appelle le système en place organise la présidentielle et réclame au préalable le départ de tous les anciens soutiens de M. Bouteflika. Mercredi, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a proposé la création d'une instance de dialogue pour organiser une présidentielle. Il a promis que l'État et l'armée ne s'y impliqueraient pas. Mais les manifestants ont rejeté cette nouvelle proposition. Un premier appel au dialogue lancé début juin par M. Ben Salah et limitée à la classe politique, avait aussi reçu une fin de non-recevoir de la contestation.
En Tunisie, le niqab, voile intégral couvrant le visage à l'exception des yeux, sera interdit dans les institutions publiques. Selon le chef du gouvernement tunisien, cette décision a été prise pour des raisons de sécurité. Raïssa Giandin.
Le premier ministre tunisien, Youssef Chahed, a décidé vendredi d'interdire l'accès aux administrations et institutions publiques à toute personne ayant le visage caché. Une décision qui intervient dans un climat sécuritaire tendu, à la suite notamment d'un double attentat suicide perpétré jeudi dernier à Tunis. Revendiqué par le groupe État islamique, l'attentat a fait 2 morts et 7 blessés. En 2014, le ministère de l'Intérieur avait autorisé la police à procéder à un contrôle renforcé des personnes portant le niqab. Un appel motivé par le danger terroriste persistant, plusieurs personnes s'étant déguisées sous un niqab pour fuir la justice. Cette tenue n'était pas tolérée sous le régime déchu de Ben Ali, qui réprimait toutes les formes d'islamisme, mais elle a connu un essor certain depuis la révolution de 2011. Le niqab a relancé le débat entre militants politiques séculiers et islamistes notamment.
Nous reviendrons sur l'interdiction du niqab en Tunisie en deuxième partie de cette édition. Mobilisation en Mauritanie pour la libération d'un journaliste. Plusieurs organisations, dont Reporters sans frontières, ont appelé aujourd'hui à la libération d'Ahmed Ould Wediaa, journaliste de la télévision privée Al Morabitoun, interpellé mercredi dernier. Un rassemblement pour sa libération a réuni une trentaine de journalistes devant le ministère de la Communication hier.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, la tension ne cesse de monter entre les pays occidentaux et l'Iran. Téhéran a sommé ce vendredi la Grande-Bretagne de restituer son pétrolier arraisonné au large de Gibraltar. Une réunion d'urgence de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le programme nucléaire iranien est prévue la semaine prochaine. Les précisions de Lionel Gaïma.
À la demande de l'ambassadrice américaine auprès des organisations internationales, Jackie Wolcott, cette réunion extraordinaire aura lieu le 10 juillet à Vienne. Les participants feront le point sur l'accord nucléaire iranien suite à la décision de l'Iran de franchir la limite imposée en 2015 à son stock d'uranium faiblement enrichi. L'Iran exige pour sa part que la Grande-Bretagne libère immédiatement son pétrolier saisi jeudi au large de Gibraltar. L'ambassadeur britannique en Iran, Rob Macaire, a été convoqué ce vendredi au ministère iranien des Affaires étrangères. Les autorités iraniennes lui ont signifié que si Londres ne revient pas sur sa décision, Téhéran n'aura pas d'autre choix que de saisir un pétrolier britannique en représailles. Le navire iranien intercepté près de Gibraltar était soupçonné de transporter du pétrole brut à destination de la Syrie en violation des sanctions européennes. Pour l'Iran, l'arraisonnement a eu lieu dans les eaux internationales et équivaut à un acte de banditisme maritime.
Le président américain Donald Trump a exhorté aujourd'hui la Banque centrale à baisser les taux d'intérêt pour stimuler davantage la croissance, bien que les données de l'emploi du mois de juin témoignent de la solidité de l'économie américaine. Depuis des mois, le président républicain reproche à la Fed de brider l'expansion économique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé aujourd'hui, vendredi, à un cessez-le-feu urgent en Libye dans un communiqué soutenu par les États-Unis et qui condamne l'attaque mardi d'un camp de migrants près de Tripoli. Le raid aérien imputé par le GNA de Fayez al-Sarraj aux forces du maréchal Haftar a fait 56 morts et 130 blessés. Crise migratoire en Méditerranée, l'un des avocats de Carola Rackete, la capitaine du navire humanitaire Sea-Watch, a annoncé que sa cliente allait porter plainte pour diffamation contre Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur. Aux commandes du Sea-Watch, Madame Rackete a été arrêtée après avoir accosté de force la semaine dernière sur l'île italienne de Lampedusa pour débarquer 40 migrants. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. maintenant le journal de la Cannes, présenté par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la Cannes. Les hostilités des huitièmes de finale ont commencé ce soir. Le Maroc est présentement opposé au Bénin. Écureuil et Lion de l'Atlas sont à égalité 1-1. À 10 minutes de la fin, Moïse Adileou a ouvert le score pour le Bénin à la 53e. Avant l'égalisation de Youssef N. Nesri pour le Maroc à la 75e. Tout à l'heure à 19h, temps universel, l'Ouganda et le Sénégal croisent les crampons. Les Lions de la Teranga sortent des poules esquintées par une défaite face à l'Algérie 0-1. Avant de se reprendre devant le Kenya, battu 3-0 face au Kouyas Ouganda. Eh bien, le coach Aliou Cissé le sait, la tâche s'annonce difficile.
L'Ouganda, c'est quand même un cran au-dessus. Ils ont des individualités intéressantes. Mia, c'est un très bon joueur. Kadou, c'est un super joueur. Ocho, c'est un garçon intéressant aussi. Ils sont très structurés, comme je le disais tout à l'heure. Très, très costauds, surtout défensivement. Donc, c'est le Kenya et la Tanzanie un peu plus fort, si je peux caricaturer comme ça.
En face, l'Ouganda dit respecter son adversaire, mais pas le craindre.
On craint aucun adversaire en fait, c'est du football, il y a 11 joueurs sur le terrain, je ne vois pas pourquoi on va rentrer sur le terrain en craignant le Sénégal. Maintenant, on sait que le Sénégal, collectivement et individuellement, ça a beaucoup plus d'atouts que nous. C'est un fait, ils ont fait la Coupe du Monde, c'est une très belle équipe avec un très bon entraîneur. Mais bon, quand vous rentrez sur le terrain, si vous respectez l'équipe, sûr, parce que c'est une grande équipe d'Afrique, mais vous ne craignez pas l'équipe.
Sébastien Desabre, sélectionné de l'Ouganda. Le week-end s'annonce intéressant avec de gros matchs en vue. Dimanche à 16h, la surprenante équipe malgache tentera de poursuivre son rêve face à une RDC ressuscitée des cendres des 4 meilleurs 3e. Puis à 19h, la Guinée n'aura pas droit à l'erreur devant la magnifique formation algérienne. Mission compliquée demain samedi à 19h pour l'Afrique du Sud devant le pays hôte l'Égypte. Mais bien avant, le premier choc de ces 8e opposera le Nigeria au Cameroun. C'est la revanche de la finale de la CAN 2000 où le Cameroun avait battu le Nigeria sur ses terres lors d'une crispante séance de tirs au but.
Nous savons que maintenant nous devons gagner ce match, ça peut durer 120 minutes. Nous sommes prêts pour cela car je crois que la fraîcheur physique est très importante dans ce tournoi. Maintenant sur les blessures, nous avons de bonnes nouvelles de Collins. Il peut jouer, je ne sais pas encore s'il peut commencer ou pas, mais il sera sur le banc dans le groupe 1. Nous avons seulement une blessure de notre capitaine Obi Mikel qui ne sera pas en mesure de jouer ce match demain. To play this
match tomorrow. Libreville, au Gabon donc, Jules Valentin Ngoué nous parle de ses rendez-vous du week-end et ne manque pas de conseils d'usage, c'est le coup de sifflet.
Avec le début des matchs à élimination directe des huitièmes de finale ce week-end, la Coupe des Nations entre dans sa phase décisive durant laquelle les supporters des différentes équipes vont passer par tous les états et toutes les couleurs. À la vue du tableau des combinaisons obtenues, force est de reconnaître que certains enseignements se dégagent déjà. Tout d'abord, sur le plan statistique, les pays présents sont les meilleurs puisqu'ils ont gagné 28 des 31 trophées mis en jeu depuis la création de la compétition en 1957 et seuls la Zambie victorieuse en 2012 et deux antiques vainqueurs, l'Éthiopie et le Soudan en 68-70 sont absents. L'autre constat est relatif à l'équilibre des parties du tableau des rencontres proposées. On y constate que la première, avec 17 trophées contre 11 à la seconde, pèse plus lourd. La faute est au Cameroun, au Sénégal et au Nigeria qui se sont contentés des deuxièmes places de poule, mais aussi à Madagascar pour son courageux crime de lèse-majesté face au Nigeria. Conséquence, dès les huitièmes de finale, on retrouve déjà un remake des finales passées, avec Ghana-Tunisie de 65, Égypte-Afrique du Sud de 98 et surtout 3 Cameroun-Nigeria en 84, 88 et 2000. Lorsqu'on y ajoute deux derbys régionaux traditionnels, de l'envergure de Cameroun-Nigeria bien sûr et de Mali-Côte d'Ivoire, avec la passion et les sports d'hiver qui les accompagnent souvent, alors la coupe est pleine. Pour toutes ces émotions en perspective ce week-end, il s'avère opportun de rappeler les conseils d'usage. Que les grignoteurs se gardent de manger trop salé ou trop sucré. Que les buveurs consomment avec modération. Libérer le canapé et la télécommande de temps en temps pour les dames et les plus petits. Avoir le numéro de téléphone de son cardiologue à portée de main. Mais pourtant, user et abuser de sa consommation d'images de faute.
Voilà, c'est tout pour le journal de la Cannes.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. L'Union africaine lance la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLEC, dimanche à Niamey. Le Nigeria devrait adhérer demain samedi à cet ensemble qui doit à terme inclure 55 pays et 1,2 milliard de personnes. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Dakar le spécialiste de l'Union africaine, Ibrahima Kan.
La zone de libre-échange est une chose tellement importante qu'il ne faut pas y aller sans réflexion. Ce que le Nigeria a fait me paraît vraiment être la bonne démarche. Oui, on est d'accord pour tout ce qui concerne l'intégration africaine, mais on veut y aller en connaissance de cause. Et je pense que le temps que le Nigeria a pris, c'était un temps de consultation, un temps d'analyse et un temps d'examen de l'effet, de tous les effets possibles de l'entrée dans la zone de libre-échange pour l'économie du pays. Et je pense que c'était une bonne chose. Donc à partir de l'instant où le Nigeria dit OK pour la signature, ça montre que le Nigeria a vraiment s'est entouré de toutes les garanties possibles du moment. Et ça, c'est une bonne chose. Je pense que tous les États auraient dû agir de la sorte.
L'Érythrée et le Bénin traînent encore les pieds.
Oui, mais ça viendra. Peut-être qu'ils sont dans la même démarche méthodologique. Ça viendra, par exemple, pour un pays comme le Ghana qui est vraiment intéressé par le commerce, non seulement intra-africain, mais entre l'Afrique et le reste du monde, je pense que ça ne va pas tarder. Bon, pour l'Érythrée, vous savez que c'est un pays très fermé, qui ne commerce même pas beaucoup avec le reste de l'Afrique. Peut-être qu'il y a des raisons plus politiques qu'économiques qui expliquent la position de l'État.
Qu'en est-il du secrétariat de cette zone de libre-échange?
La décision va être prise à Niamey. Il y a 7 pays candidats, et non des moindres. Vous avez l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, le Ghana, Madagascar, le Sénégal et Eswatini. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un pays qui joue un rôle important dans le commerce africain qui va prendre les rênes. Et quand on regarde la liste, je pense qu'il y a au moins 3 pays qui partent favoris, l'Égypte, le Kenya et le Ghana. Maintenant, on verra parce que ce n'est pas simplement des aspects économiques qui sont souvent prises en considération, c'est aussi des équilibres géographiques et autres. Bon. Mais espérons que ce sera dans un pays phare de l'économie africaine et qui peut vraiment jouer un rôle important pour amener les uns et les autres à respecter les règles. Donc, et ça, ce n'est pas simple dans le contexte africain.
Le marché devait être actif à partir du 1er juillet 2020. Est-ce que c'est un calendrier réaliste pour vous ?
Pas totalement réaliste, parce que d'abord, il y a beaucoup de choses à régler.
C'était Ibrahima Kan, spécialiste de l'Union africaine. Il était joint à Dakar.
I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Jacques Aristide avec vous dans l'Amérique et vous tout à l'heure à 19h TU. Gros plan sur la dimension militaire qu'a ajouté hier le président américain à la fête nationale du 4 juillet, la date de l'indépendance des États-Unis. Les détracteurs de Donald Trump l'accusent d'avoir politisé l'événement alors que le coût du défilé fait toujours polémique. Qu'en pensez-vous ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et en direct au 001 202 205 43 93.
En Côte d'Ivoire, un projet de loi pour la mise en place d'une nouvelle commission électorale est contesté par une partie de l'opposition et de la société civile. Mais tout le monde est d'avis que le président de la prochaine commission devra être une femme et la question de la parité a été abordée. La Cour africaine des droits de l'homme avait rendu en 2016 un arrêt jugeant l'ancienne commission trop déséquilibrée et a enjoint le pays de changer sa composition. Jointe par Nathalie Barge, Salimata Porquet, présidente de la plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, revient sur les points d'accord et de désaccord.
Finalement, tout le monde était d'accord qu'il y ait le représentant de la présidence et le représentant du ministre de l'Intérieur. Les points de désaccord, certains groupements politiques ont refusé que le représentant de la présidence et le représentant du ministère de l'Intérieur aient voix délibérative. Et il y a un autre point qui était un point d'accord commun. Les partis de l'opposition ont décidé que cela ne puisse pas être candidat à la présidence de la tête de la CEI. Ça, c'était également un point d'accord. Puis il y a un point de désaccord. Lorsqu'il y a eu la publication du résultat des travaux que nous avons eus au niveau de la CEI, on a mis dedans que le Conseil national des droits de l'homme devient société civile et va prendre une part parce qu'il est prévu 6 places pour la société civile. Donc le Conseil national des droits de l'homme, qui est déjà une institution.
Ce qui fait que la société civile n'aurait plus que
3 membres. Parce qu'il y a un membre pour le barreau, un membre pour les avocats et un membre pour la commission nationale, le Conseil national des droits de l'homme. Et on met le Conseil national des droits de l'homme dans la société civile. Donc je pense que nous allons faire une revendication.
Je sais que cela est déjà compliqué, visiblement, d'avoir une place pour tout le monde, mais c'est la question que peut-être certains se posent. Et la présence des femmes.
La présence des femmes est exigée. Nous avons exigé le quota au sein de la commission électorale indépendante. Et il y a même un parti qui a demandé à ce que la présidence de la commission soit confiée à une femme. De ce côté, tout le monde est d'accord. Toutes les organisations sont d'accord, c'est-à-dire aussi bien les politiques que la société civile. Tout le monde est d'accord qu'il y ait un équilibre du genre. Les partis du pouvoir auront 3 personnes et les partis de l'opposition 3 personnes. Mais qu'au moins, dans ces 3 personnes, qu'il y ait soit une ou 2 femmes de chaque parti. Et c'est pareil pour la société civile. Nous ferons de telle sorte qu'il y ait au moins 2 ou 3 femmes.
C'était Salimata Porquet, membre du comité de coordination des femmes médiatrices de l'Union africaine, qui avait notamment déployé 600 observateurs lors des dernières élections en RCI.
Raissa Girondin, votre compagnie. En Tunisie, le niqab sera interdit dans les institutions publiques pour des raisons de sécurité, selon le chef du gouvernement. Que pensez-vous de cette décision des autorités tunisiennes? C'est la question posée ce soir dans À votre avis. Réagissez en direct à partir de 18h en temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook. Nous vous rappellerons.
Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed vient d'émettre un ordre interdisant aux personnes portant le niqab l'accès aux administrations publiques, invoquant des raisons de sécurité. Le débat sur ce voile couvrant tout le visage, à l'exception des yeux, se trouve relancé dans un climat sécuritaire tendu, notamment suite au double attentat suicide perpétré jeudi dernier à Tunis. Raissa Girondin a joint à Tunis Manouki Marouki, journaliste, ancien rédacteur en chef du journal La Presse.
La majorité des Tunisiens étaient contre cet habit distinctif d'un certain état d'esprit extrémiste. Parce que si on se fait même au texte sacré au Coran, mais il n'y a aucune indication de la nécessité ou de l'obligation de porter de tels habits.
C'est une tenue qui n'était pas tolérée sous le régime de l'ancien président Ben Ali.
C'est après le 14 janvier en 2011 que, au nom de la liberté et des droits de l'homme, et ce sont beaucoup plus les salafistes, les femmes de salafistes et les femmes qui ont porté le niqab, c'est le port intégral. Il couvre entièrement le corps. Même les yeux, on ne les voit pas puisqu'il y a comme un rideau de devant, on ne voit absolument rien, on voit rien. Tout est couvert.
Quel type de problème le port de cette tenue peut engendrer?
Rien qu'au niveau de la vie sociale, au sein de l'administration. Quelqu'un qu'on voit pas, on voit pas le visage et qui vient demander un service, je ne sais pas moi, des papiers importants, mais il y a même certaines femmes qui refusaient complètement de voiler leur visage pour authentifier réellement la personne par rapport au papier qu'elle présente.
Selon le chef du gouvernement tunisien, cette décision a été prise pour des raisons de sécurité, mais une telle loi est-elle vraiment nécessaire?
Bien sûr, puisque aujourd'hui, heureusement qu'ils commencent à prendre conscience de la gravité d'un tel camouflage. Parce qu'il y a pas mal de terroristes qui se sont cachés. On avait ça à l'étranger, mais chez nous aussi, pour fuir les contrôles, pour fuir même les chefs policiers, ils portent le niqab. C'est une mesure préventive pour préserver la société et le commun des mortels d'éventuels opération terroriste, tout simplement.
Interdire le port du niqab dans les institutions publiques, qu'est-ce que ça peut être perçu comme une atteinte à la liberté pour les femmes musulmanes ?
La liberté, mais la liberté, elle n'est pas absolue. La liberté, elle s'arrête là où elle commence à nuire à la liberté des autres. Mais là, elle ne nuit pas à la liberté des mais elle nuit à toute la société, parce que le risque est grand que par désespoir, c'est des gens qui sont prêts à tout.
Quelles conséquences de cette décision à l'intérieur du pays, notamment entre les militants politiques et les islamistes ?
Rien. Ils ne sont pas nombreux, leur voix ne portera pas. Et je peux vous assurer que la majorité des Tunisiens sont beaucoup plus rassurés par une telle mesure. Et je peux même vous dire qu'en dehors du niqab, même le port du voile est devenu pour une grande partie des femmes tunisiennes, c'est un effet de mode.
Manouki Marouki, journaliste, il était joint à Tunis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Revenons sur les célébrations du 4 juillet, la fête nationale célébrant l'indépendance des États-Unis. Avec des chasseurs en démonstration dans le ciel de Washington et des chars d'assaut exposés devant le Lincoln Memorial, le président Donald Trump a incité les jeunes à intégrer l'armée américaine lors d'un discours prononcé hier à cette occasion. Ses adversaires lui ont reproché de s'être approprié la fête nationale traditionnellement apolitique. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec la professeure Marilyn Sefolk de l'université Howard à Washington.
Eh bien, il s'agit peut-être d'une inspiration venue de France, puisqu'il a visité donc la France le 14 juillet dernier, si je ne m'abuse, et donc il s'agissait donc le défilé militaire français, c'est un défilé vraiment extrêmement axé sur tout ce qu'il y a comme arsenal militaire, tank, etc. C'est un défilé qui est vraiment extrêmement impressionnant, et le président Trump se serait inspiré de la parade militaire française. Eh bien, ils ne veulent pas de défilé militaire parce que c'est simplement pas dans la tradition ou dans les goûts américains. En général, vous avez donc dans les défilés américains ou des associations ou des Native Americans, comme on dit ici, amérindiennes qui défilent, etc. Mais vous n'avez pas de tanks, de parades militaires. C'est un rappel aussi l'histoire américaine, parce que dans l'histoire américaine, justement, les Américains se débarrassaient du joug, si vous voulez, de l'Angleterre. Donc, ils se débarrassaient justement de l'emprise coloniale. Et donc, tout ça, ça a, si vous voulez, un relent de l'époque coloniale américaine.
Le président Trump s'est également exprimé sur les marches du Lincoln Memorial, rompant donc avec la tradition. Ses détracteurs démocrates craignaient un meeting de campagne partisan environ un an et demi de l'élection présidentielle. Qu'en pensez-vous ?
Oui, alors cela peut être interprété de la sorte. Quand un personnage politique américain s'adresse à la nation à partir du Lincoln Memorial, ça a un impact énorme sur la population. On se souvient des marches des années 60, on se souvient donc de Martin Luther King et tout. Donc c'est vraiment se réapproprier le Lincoln Memorial. Et ça peut évidemment être interprété comme ayant un impact politique.
À propos
une incidence sur la campagne électorale, évidemment.
À propos du budget de l'événement, également dénoncé par les démocrates, Donald Trump a déclaré que le coût serait mineur. Ce sont nos avions, nous avons les pilotes, l'aéroport est juste à côté, on a juste besoin de carburant, les chars et tout le reste sont à nous. C'est ce qu'il avait déclaré avant l'événement. La polémique va-t-elle se poursuivre à ce sujet, selon vous ?
Ben évidemment, parce qu'il y a aussi, il faut se souvenir que tout ça se déroule à Washington.
C'était Marilyn Sefolk, professeure à Howard University. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la console, Nelson Lopez. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
VOA Afrique, les infos.